Maggie. Rester à l'hôtel me déprime beaucoup trop. Non seulement il n'y a pas le moindre sapin de Noël, mais en plus, lorsque je me suis laissée aller à fredonner Santa Claus is coming to town en rentrant de la piscine, les employés m'ont fusillé du regard derrière le comptoir, comme si j'avais commis un crime passible de la chaise électrique. J'exagère à peine. Au moins la ville de Victoria me confirme que Noël n'est pas une pure invention de mon esprit. Certes, le décor n'est pas exactement celui auquel je suis habituée, mais des guirlandes lumineuses sont accrochées aux façades des maisons, et il ne m'en faut pas beaucoup plus pour m'apporter un peu de baume au cœur. Et puis, au détour d'une rue, je suis éblouie par une explosion de couleurs. Du bleu, du rouge, du orange, du vert. Sans vraiment que j'y prête attention, mes pas m'ont conduite dans la cour intérieure d'un immense marché, probablement celui mentionné dans le livret d'information remis par l'hôtel. De tous les côtés, des étals de fruits et légumes, des marchands d'épices et de mets locaux. Les odeurs se mêlent au brouhaha festif ambiant. Je suis attirée par un amoncellement de papayes d'un jaune éblouissant.
« Venez goûter, ma jolie dame, ce sont les meilleurs du pays !»
Le vendeur attrape l'un des fruits et le coupe en deux. Puis, à l'aide d'une cuillère, il gratte les graines avant de prélever un gros morceau de chair qu'il me tend. Le fruit juteux et sucré me ravit les papilles. Le visage de l'homme se fend aussitôt d'un large sourire.
« Elles sont bonnes, mes papayes, hein ?»
s'exclame-t'il.
« Je vous le disais, les meilleurs de tout le pays !»« N'écoutez pas ce vil charmeur qui ne sait faire que de la papaye !» enchaîne son voisin. « Venez plutôt goûter mes mangues et mes avocats et vous m'en direz des nouvelles !»
Pendant plus d'une heure, je me laisse guider par les saveurs qui me sont proposées, tantôt sucrées, tantôt relevées, et c'est avec bonheur que je me nourris de l'amour de ces gens pour leurs produits. Passionnés, ils ne se font pas prier pour me raconter comment ils cultivent leurs terres et choisissent les meilleures graines. Je fais le plein de coriandre, de safran, de bâtons de cannelle, me promettant d'apprendre à cuisiner des currys savoureux. À l'étage, je découvre plusieurs échoppes de vêtements, bien mieux garnies que la boutique de l'hôtel. Je craque pour une robe colorée en mousseline vaporeuse, parfaite pour la saison, un sac en toile orné de palmiers dans lequel je range mes achats, ainsi que pour un chapeau de paille au bord démesuré. J'ai toujours rêvé d'un chapeau de ce style, pour ressembler au pin-up des années 60. Je remarque une caisse de foulards et prends un temps infini à en choisir un pour Margot. Si elle avait été là, elle serait sans aucun doute repartie avec tout le stock de la vendeuse et sa carte de visite. Je sais pourtant que je dois me méfier de moi-même et de ma trop grande politesse. Je me maudis, accrochée au bastingage d'un catamaran. Comment les choses ont-elles pu déraper à ce point? L'explication tient en un seul mot. Brigitte. De retour du marché de Victoria, les bras chargés de souvenirs, après tout, rien n'interdit de faire des cadeaux de Noël après le 25 décembre, je suis montée déposer mes affaires dans ma chambre. J'étais encore étourdie par ce bain de chaleur humaine, et donc vulnérable aux sollicitations, quand je suis redescendue dans le hall de l'hôtel et que Brigitte a fondu sur moi pour m'inviter à une sortie en mer, vous allez adorer, c'est parfait pour ce que vous avez. Aussi, avant même d'avoir compris quoi que ce soit, j'ai dit oui, et elle m'a embarqué avec elle, à bord d'un catamaran de luxe, alors que j'ai le mal de mer.
Maggie chérie, venez avec moi, il faut que je vous présente des gens formidables.
Elle m'attrape par le bras et m'entraîne vers l'intérieur du bateau, où a été installé un bar à cocktail. Qui peut bien boire de l'alcool alors qu'il se trouve en pleine mer, ballotté par les flots?
Vous me mettrez des vodka citron, mon chou.
Brigitte, apparemment.
Je prendrai juste un jus d'orange, s'il vous plaît.
Vous n'avez pas envie de découvrir l'ivresse sur un catamaran?
Je n'ai pas envie de découvrir les vomissements sur un catamaran. Et puis je viens de prendre un médicament contre le mal de mer, ce n'est pas très indiqué de boire de l'alcool.
Brigitte élève les yeux au ciel. L'espace d'un instant, j'ai l'espoir qu'elle comprenne que je ne suis vraiment pas l'acolyte idéale pour ses vacances aux Seychelles. Mais non.
Comme vous voudrez, ma chérie, mais vous ratez quelque chose. Cela ne nous empêche pas de passer un moment en charmante compagnie. J'ai fait la connaissance de deux messieurs absolument adorables, un père et son fils. N'est-ce pas un hasard formidable pour une mère et sa fille?
Une mère et sa fille?
Oui, ne m'en veuillez pas, mais je leur ai dit que nous étions liés par le sang, ce qui a paru les émoustiller. Ah, Justement, les voilà. Emilio, Roberto.
Gazouille-t-elle en faisant signe à deux hommes qui s'avancent vers nous.
Roberto doit avoir une petite soixantaine d'années.
Me murmure-t-elle à l'oreille.
Et vous savez ce qu'on dit, c'est dans les vieux pots qu'on trouve le meilleur plaisir.
Vieux pots qui ne l'intéressent pas, si j'en crois les œillades qu'elle lance à celui que je présume être Emilio, un Apollon au torse imberbe, cramoisi par un coup de soleil. Vu l'aspect de sa peau, j'en connais un qui va passer une assez mauvaise nuit. Roberto, quant à lui, fait bien ses 60 ans. Il n'est pas dénué de charme, si l'on aime les spécimens au ventre rebondi, recouverts de poils des pieds aux narines.
Êtes-vous sûre que vous êtes mère et fille? On dirait plutôt deux sœurs.
Minaude Roberto. Brigitte en glousse de plaisir. Incroyable que ce genre de drague fonctionne encore. Ses atouts mammaires semblent être au goût d'Emilio, à qui je ne donne guère plus de 25 ans, dont le regard est littéralement plongé dans son décolleté. C'est donc ça. Le jeune est attiré par les promesses de la femme mûre, et l'homme mûr aimerait bien, lui, s'encanailler avec une jeunette. Dans cette équation à quatre, il n'y a que la jeunette qui, en cet instant, ne pense pas du tout au sexe, mais plutôt à ne pas renvoyer le contenu de son estomac. Heureusement pour moi, le catamaran arrive à proximité d'une petite plage où il est prévu de faire escale pour permettre à chacun de se baigner. Je suis impatiente de rejoindre la terre ferme.
Allons-nous rafraîchir ? Propose Brigitte en ôtant sa robe sous laquelle elle ne porte qu'un string de bain motif panthère.
Emilio a les yeux qui lui sortent de la tête. Roberto est à deux doigts d'abandonner sa cure de jouvence. J'installe ma serviette aux couleurs de l'hôtel et m'enroule dans un pareo acheté au marché ce matin. Le départ en bateau s'est fait de manière tellement précipitée que je n'ai pas eu le temps d'enfiler mon maillot de bain. Je me contorsionne pour enlever ma culotte et la remplacer par le bas du bikini, tout en essayant de maintenir le pareo autour de ma taille, seul rempart entre ma nudité et ma dignité.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous changer dans une cabine à l'intérieur du bateau.
Me propose en français l'un des membres de l'équipage, un homme aux longs cheveux bruns et aux yeux les plus bleus qu'il m'ait été donné de voir. Je m'apprête à refuser quand, après avoir mis mon deuxième pied dans le même trou que le premier, je perds l'équilibre et bascule en arrière, les fesses dans le sable.
Elle est où, cette cabine ?
Il me sourit, amusé, et deux petites fossettes se creusent sur ses joues.
Venez avec moi, belle mademoiselle.
La température de l'eau est parfaite, permettant d'y rentrer sans avoir à marcher sur la pointe des pieds pour retarder le plus possible l'immersion de la ceinture abdominale. Je barbote, et je dois bien admettre que c'est très agréable. Je n'en reviens toujours pas de me baigner dans la mer un 22 décembre. Brigitte, Emilio et Roberto ne sont pas très loin, les deux derniers arrosant la première qui pousse des cris de pur plaisir. J'en déduis que le plan cul initial s'est transformé en combat de coq, ce qui m'arrange, même si je suis un peu déçue de renoncer à la belle toison grise de Roberto. Je nage vers le bord de la plage quand, soudain, je sens une vive douleur sur mon mollet droit. Je pousse un hurlement et me remets brusquement à la verticale. Quelque chose m'a piqué, mais je ne vois aucun animal marin à proximité. Est-ce que ce serait une méduse ? J'ai toujours eu une peur bleue de ces bestioles visqueuses.
« Maggie chérie, ça ne va pas ?»
s'inquiète Brigitte en se rapprochant de moi.
« Nous vous avons entendu crier.
Je crois que je me suis fait piquer par une méduse. »
Une méduse, d'où Jésus ? Je me souviens que ça m'est arrivé lorsque j'étais gamine. C'était atroce, j'ai souffert horriblement. J'ai lu depuis que de l'urine humaine pouvait calmer la brûlure.
Je me dévoue, si vous voulez,
propose aussitôt Roberto, les deux mains sur le maillot, visiblement ravi à l'idée de me dévoiler sa virile anatomie.
Non, non, ça ira, je vous rassure, je suis médecin. La croyance selon laquelle l'urine pourrait avoir un effet apaisant est totalement infondée. La miction pourrait même aggraver la situation.
Les bras de Roberto retombent le long de son corps.
« Il n'y a donc rien que nous puissions faire pour vous soulager, très cher ?»«
Pas grand-chose, non. Je vais aller m'asseoir sur ma serviette, appliquer du sable sur mon mollet et attendre que ça passe. Ne vous inquiétez pas, d'ici à quelques heures, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. »
Je sors de l'eau en boitant à moitié, avec l'impression que ma jambe est en proie à des flammes. J'ai tellement mal que j'ai envie de m'arracher les ongles à la pince à épiler. Le tout est de ne pas paniquer. Ce n'est qu'une piqûre de méduse, ce n'est rien du tout. Sauf si l'on y est allergique, bien sûr. Et si j'étais allergique? Comment je pourrais savoir, puisque c'est la première fois que je me fais piquer? J'ai la gorge qui gonfle, là, non? Oh mon Dieu, je suis allergique. Je vais mourir dans cet affreux bikini bien trop serré, un 22 décembre, sur une plage des Seychelles dont je ne connais même pas le nom et où je n'ai même pas choisi de mettre les pieds. Rien de tout ça ne serait arrivé en Laponie. Personne ne meurt à cause d'une piqûre de reine. Quoique, est-ce que ça pique les reines? Oh, ça y est, je divague, c'est la fin, c'est sûr. Le venin est en train de se répandre et d'attaquer mon système nerveux. Dans quelques minutes, je vais perdre connaissance et je vais mourir. Si ça se trouve, Roberto va essayer de me réanimer en me faisant du bouche à bouche. Et Brigitte, en deuil, toute de noir vêtue, témoignera en sanglotant qu'elle m'a tenu la main jusqu'à mon dernier souffle. Je jette un œil de son côté, ce que je regrette immédiatement. Je crois que le trio de choc n'est plus vraiment préoccupé par mon sort. Finalement, je ne suis pas morte. Et je m'en réjouis. L'homme d'équipage aux yeux bleus, alerté par mes grimaces de douleur, me propose un grand verre d'eau que je me contente d'avaler, bien que l'envie de le balancer sur mon mollet pour apaiser la sensation de lave en fusion soit grande. Mais ce serait comme boire après avoir croqué dans un piment, une très mauvaise idée. Puis il me tend la carte de visite de sa sœur, qui est médecin, et travaille pour l'hôtel dans lequel je séjourne. Elle pourra me donner une crème pour me soulager. Je prends le Bristol et le remercie. Son sourire fait de nouveau apparaître des fossettes au coin de ses lèvres. De retour sur le bateau, Brigitte, après s'être inquiétée à grands cris de mon état, me murmure « Bien joué le coup de la méduse. Je m'en souviendrai pour une prochaine fois. Il est à croquer, ce skipper, vous m'en direz des nouvelles ?» Elle appuie sa remarque d'un clin d'œil, tellement peu discret, qu'il lui déforme la moitié du visage. Puis me plante là, moi et mes joues rouges pivoines, sous le regard du dit skipper qui n'en a évidemment pas manqué une miette.